Par exemple, la phrase clé, la formule clé du Maharal qui revient systématiquement dans toute son œuvre, Haouma à Israélite, la nation d'Israël. Je ne traduis pas israélienne parce qu'au temps du Maharal, il n'y avait pas ce concept d'israélien. Mais c'est le même mot en hébreu. Pour dire la nation d'Israël, le Maharal dit Haouma à Israélite. Comment vous prononcez Israélite ou Israélite? En hébreu, je dis bien. Hein? Israélite ou Israël? Non, non, en hébreu, je dis bien. Il me semble qu'il faut dire Israélite. Okay? Bon, demandez au professeur de vous parler. Et alors là, et le fait même que cette entité collective sort de la clandestinité virtuelle où elle se trouvait, existe comme fait concret sociopolitique, dévoile le problème qui était caché. Je pense que c'est suffisamment clair, puisque c'est surtout la dimension spirituelle qui était chez elle, elle-même, dans la communauté juive. Cette dimension spirituelle avait, elle était reliée à une dimension nationale évidente, mais évidente au niveau de la foi, évidente au niveau de l'espérance, de la mémoire qui nous reliait au temps hébraïque, et où là il était évident concrètement que Israël c'était premièrement une nation. Peut-être que, j'ouvre une petite parenthèse ici, j'aurai à parler un peu plus attentivement lundi soir, pour la réunion de clôture, de trois époques dans l'histoire d'Israël. Les deux premières, tout le monde est d'accord, et elles nous sont très familières. C'est la troisième qui va faire question. Les deux, la première, c'est le temps hébraïque, le temps des Hébreux. Le temps si vous voulez, le témoignage historique aussi est toute la Bible. Le temps biblique, si vous voulez, le temps des Hébreux. Or, quiconque lit la Bible comme elle est écrite, se rend compte que c'est l'histoire d'une nation, et non pas d'une synagogue dans le sens d'une église, d'une communauté purement spirituelle. Je pense que c'est bien clair. Toutes les sources de la tradition orale concernant tout ce que dit le texte biblique de l'identité Israël, c'est premièrement, c'est un postulat qui n'a même pas à être rappelé, mais qu'il faut rappeler à cause de ce qui fait question, c'est une nation. Ensuite, il y a eu le temps juif, le temps des Juifs, qui succède au temps hébreu. La charnière entre le temps hébreu et le temps des Juifs, c'est le temps déjà du premier royaume de Juda, mais surtout du deuxième, après le schisme. Et c'est d'ailleurs le mot de judéen qui finalement a donné en français le mot de juif. Ça ne s'entend pas très bien en français moderne, parce que le dalet de Yehuda a disparu dans la traduction, si j'ose dire. Mais je peux vous citer, comme je le fais d'habitude, en espagnol, pour dire juif, on dit judío, et ça veut dire Yehudaï, c'est-à-dire judéen. Ce sont les judéens qui sont les hébreux de l'exil, on les appelle juifs. Et là, il y a plusieurs changements d'identité qui apparaissent. D'abord, et c'est considérablement important, l'arrêt de la prophétie. L'arrêt de la prophétie marque la fin du temps hébreu et le commencement du temps juif. La fin du temps de l'hébraïsme, dans le sens anthropologique que j'essaye de définir, et le commencement du judaïsme, qui fait suite. La prophétie ne s'est pas arrêtée d'un coup, elle s'est occultée. Il y a un temps de passage de Shalhé à Nevoa, un temps de rémanence, je ne sais pas comment dire, jusqu'à ce que finalement la capacité prophétique s'intériorise, s'occulte, avec un stade important du roi HaKodesh, qu'on ne peut pas traduire le Saint-Esprit, il faudrait le lire en grec, mais l'esprit de sainteté, qui continue d'ailleurs à inspirer les grands d'Israël, mais à l'échelle individuelle. Avec des... Plus on s'éloigne, et plus, disons, moins d'évidence du roi HaKodesh, qui est ce qui restait de la Nevoa, le roi HaKodesh étant un des degrés de la Nevoa d'ailleurs. Et, mais, un premier événement d'une importance colossale. J'ouvrirai une petite parenthèse, je crois que j'en ai parlé une fois, mais c'est important pour la pédagogie traditionnelle elle-même. C'est que, dans le temps de la prophétie, dans le temps des Hébreux, Eh bien, il y a évidence de dévoilement de révélation. On voit, on entend, alors on sait. Et puis tout se cache. Lorsque le temps arrive que la prophétie s'occupe, commence le temps de la foi, de la émouna. On est relié à ce dont il est parlé par la émouna, qui est le fait de savoir que quelque chose qui est caché est ce qu'elle est. Alors que le émet, la vérité, c'est le fait de percevoir que ce qui est se révèle, mais quand ce qui est se révèle, je n'ai pas à croire, je vois. Je vous donnerai un petit exemple dans la lecture. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, le temps de la foi commence avec les Juifs. Parce qu'au temps des Hébreux, si vous voulez, il y a aussi le problème de l'expérience, de la confiance dans ce que ce qui se révèle, promet, précisément, puisque ça ne se réalise pas encore. Il faut avoir confiance. Et le problème de la vertu de foi, de la vertu de confiance est important. Qu'est-ce que ça veut dire que quand Dieu promet, il y a une vertu à croire qu'il accomplira? Est-ce que c'est bien clair ce que je vous dis? Les Hébreux savaient que quand Dieu promet, c'est Dieu qui promet. Parce que c'est un temps de dévoilement, de révélation, d'évidence. Il fait jour, alors on voit. Et quelle est donc cette vertu de la foi qui consiste à faire confiance à une promesse, mais dès qu'on ajoute que Dieu fait, on ne comprend plus où il y a la vertu. Parce que si c'est Dieu qui promet, où est la vertu de croire? Est-ce que c'est clair l'analyse? Ben, c'est précisément parce que c'est Dieu qui promet et que ça ne se réalise pas encore qu'il faut drôlement avoir la foi. Est-ce que vous avez compris le paradoxe qui n'en est pas un? Et c'était à l'origine le mérite d'Abraham. Dieu lui dit, tu auras un enfant, mais l'enfant ne vient pas. Alors Abraham se dit, si c'est Dieu qui me dit que j'ai un enfant, mais voilà que je ne veux pas que... Alors c'est pas moi Abraham. Alors en fin de compte, ce n'est pas non plus un paradoxe. Avoir foi que ce que Dieu m'a promis se réalisera, ça commence premièrement à avoir confiance en moi. Est-ce que c'est clair toujours? C'est-à-dire que pour commencer à avoir la foi, il faut évacuer le doute de soi. Et je voudrais là en profiter pour vous proposer une petite analyse qui me semble très importante. Au fond, le fléchissement de la foi dans l'histoire du judaïsme, dans l'histoire d'Israël en général, c'est pas tellement de ne plus croire que ce que Dieu a promis se réalisera. Parce que premièrement, il faudrait savoir de quoi il s'agit. Et quand quelqu'un dit « j'ai la foi, j'ai pas la foi », est-ce qu'il sait de quoi il parle? Parce qu'il s'agit d'un monde qui était dévoilé aux Hébreux, mais qui pour nous est caché, et auquel nous sommes reliés par la conduite de foi, par la conduite de confiance. Pour donner l'image qui est plus qu'une image que donne le Midrash, la foi, c'est la relation à la vérité quand la vérité est cachée, c'est-à-dire c'est le temps de la nuit. L'évidence de vérité, c'est le temps du jour. Je vais donner une indication dans la liturgie. Et j'en vois qu'ils savent à quoi je pense. C'est après le Kriyat Shema, nous avons une prière, enfin un texte de Bracha, qui le matin commence par Emet, Veyatif, Venachon, Vekayam, Veyachar, Vechoulé. Ça veut dire tout ce qu'on a dit en proclamant l'unité de Dieu et ses promesses, on enchaîne tout de suite dans une bracha qui dit tout ça, c'est vrai, non seulement c'est vrai que c'est vrai, et même c'est vrai. Bon, émet, 16 adjectifs. Le matin, émet, véactif. Le soir, on va rentrer dans la nuit. Et alors on dit émet, véemuna. C'est vrai, bien sûr, mais c'est objet de foi. Parce qu'on rentre dans la nuit, on sait que c'est là, mais c'est caché. Alors la relation la nuit, c'est la relation de émuna au matin. On se réveille et on voit que, effectivement, le voile, l'écran de l'obscurité est parti, et ce dont on nous parlait, mais qu'on n'avait jamais vu, que dans un jardin il y a des arbres, que sur les arbres il y a des fleurs, mais des feuilles, mais il y a aussi des fruits, et que ça c'est vrai. Alors le matin, le verset qu'on dit dans la liturgie, c'est Le Hagid Baboker Hasdecha Ve Nunatra Valelot. Je reprends le verset. Le Hagid Baboker Hasdecha. Pour dire au matin ton chesed, et qu'il faut traduire là par ta fidélité, c'est vrai. Ce dont on nous a parlé la nuit, on l'a vu le matin. Et qui peut parler la nuit des choses qu'on verra que le lendemain matin? Ceux qui l'avaient vu la veille, c'est ça les prophètes. Ils ont vu le monde quand il faisait jour, et ils en parlent quand il fait nuit. Je pense que c'est clair. Et vous donner une autre image. Imaginez qu'il faut traverser une forêt qu'on n'a jamais traversée en pleine nuit. Alors on prend un guide. Mais qui c'est le guide ? C'est pas celui qui voit dans la nuit. C'est celui qui se rappelle qu'est-ce qu'il y a qu'on ne voit pas la nuit. Alors il dit, bon, là, on passe par là. Pourquoi on passe par là ? Tais-toi, tu verras demain matin. Ici, il y a une pierre. Où elle est la pierre ? Je ne vois pas. Bien sûr que tu ne vois pas, moi non plus, mais je sais qu'elle est là. Et c'est clair. Et jusqu'au moment où on sort de la forêt, c'est le matin. Alors le verset, c'est « Le hagid ba boker hasdecha » afin de dire ta fidélité au matin, boker, « ve emunatra balelot » et la foi que nous avions en toi. Mais ça veut dire la fidélité que tu nous as promise, et au fond c'est toi qui avais foi en nous, puisque tu nous parles, sinon tu aurais parlé à d'autres. Okay? C'est clair jusque-là. Ça c'est pendant la nuit. Pour en arriver à ceci, je crois que, je ne sais pas si j'en ai parlé au dernier séminaire, mais c'est à peu près depuis ce temps-là que je suis un peu obsédé par cette idée. J'étais très frappé par une tendance dans la littérature juive contemporaine, des nouveaux philosophes et tout ce qui va avec, par une espèce d'apologie du doute, et surtout lorsque le doute porte sur l'identité juive. Comme si être juif, ça veut dire douter d'être juif. Et ben, ça se lit en filigrane dans énormément. Vous suivez cela ? Et je dirais, quand j'ai commencé un peu mes études de philosophie, j'ai rencontré Descartes, enfin, dans la bibliothèque. Et j'étais extrêmement impressionné par la précision, la clarté de la méthode avec laquelle il parle du doute en tant que méthode. Je pense que c'est clair. Et ce qui m'a mené à découvrir une notion qui est beaucoup plus authentique de ce dont on veut parler en parlant du doute comme vertu, et qui n'est pas du tout le doute, mais la perplexité. Lorsque la conscience découvre le mystère du monde, il n'y a pas expérience de doute, il y a expérience de perplexité. Et je crois que la perplexité qui se dit « itlaptut » en hébreu moderne, okay, c'est pas safek. Le safek, c'est un poison. Le doute, c'est un poison. La perplexité, c'est une vertu. Une vertu, d'ailleurs, qui commence par l'humilité. Et lorsque Abraham entend la promesse de Dieu dans les commencements de l'histoire de l'identité d'Israël, c'est pas qu'il doute, il est perplexe. Parce que c'est la première fois que cette promesse apparaît dans l'histoire. Alors je crois que la perplexité peut être définie comme une vertu, et une vertu qui implique cette vertu d'humilité. C'est normal qu'un juif soit perplexe dès qu'il découvre que son histoire a un sens. Parce que le sens de cette histoire est tellement vertigineux que s'il n'est pas perplexe, c'est qu'il est orgueilleux, ou qu'il ne comprend rien. Je pense que c'est clair. Mais parler du doute, c'est là, si vous voulez, un glissement de concept. Et si on a bien compris ce que Descartes, enfin le philosophe de la méthode du doute, entend par là, et je dirais, ce que j'ai un peu essayé de comprendre à ce sujet, c'est que le doute est une expérience secondarisée, tardive, très sophistiquée, qui vient après une expérience de connaissance dont on a été déçu. Alors que la perplexité est au commencement de la pensée. Et pour comprendre l'expérience de la perplexité, il faut observer attentivement les enfants qui viennent de naître. Ils sont perplexes. Et pour comprendre le doute, eh bien, il faut observer attentivement les vieillards déçus. Et ça n'a rien à voir. Vous comprenez le problème. Bon, je referme la parenthèse. Ceci pour dire que, pour revenir à l'analyse précédente, que dans le temps des Hébreux, il n'y avait pas de place pour le doute, même s'il y avait perplexité. Pourquoi ? Parce que c'était le temps de révélation, de dévoilement. Quelle est la raison directe de cet arrêt de l'événement prophétique en tant qu'expérience ? Et nous, Juifs, depuis ce temps-là, sommes reliés par la foi à ce qu'était la connaissance des Hébreux. Je pense que c'est suffisamment clair. Okay ? Quand nous lisons ce livre, qui était parole pour les Hébreux, eh bien nous avons d'abord un postulat, et nous avons des raisons d'avoir ce postulat, parce que nous avons une mémoire de notre filiation hébraïque, et ça passe pas, encore une fois, par la raison, mais par la mémoire. Nous avons ce postulat que ce texte parle vraiment de ce que Dieu a dit aux hommes à travers les Hébreux. C'est le postulat de notre lecture, mais c'est un postulat de médiation de foi. Est-ce que c'est clair ? Et ensuite, nous étudions pour savoir en quoi nous croyons, et pas l'inverse. j'ai souvent cité cette différence dangereuse de méthode, lorsque on rencontre la Bible comme un événement culturel, c'est ce que nous appelons dans notre jargon traditionnel les Sadducéens, et que on sait, ou on ne sait pas, mais enfin, on devine, étant donné que le monde entier lit la Bible dans toutes les langues, que ça doit être un événement culturel important. On est très fiers de l'avoir dans notre bibliothèque juive, la Bible. Alors on étudie la Bible pour essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. Et chacun comprend comme il peut, avec les dictionnaires qu'il peut, et les traductions qu'il peut, et il croit dans ce qu'il comprend. Catastrophe. Vous avez compris le problème. Alors que la méthode traditionnelle, c'est d'abord de croire que c'est la vérité. Et pour ça, il faut procéder d'une histoire, d'une mémoire, les Juifs. Et alors ensuite, on étudie pour essayer de comprendre ce en quoi on croit. Et l'attitude est systématiquement différente et le résultat n'a rien à voir. Je pense que c'est clair. Bon. Alors, la question c'est, au moins, comment décrire l'événement de cette fin du temps hébraïque et le commencement du temps du judaïsme, du commencement du temps des Juifs. Le thème traditionnel, nous avions commencé à l'étudier avec M. Gorvin il y a 35 ans aussi, c'est l'événement du livre d'Esther et de l'époque de la reine Esther, okay, où tout ce qui était dévoilé commence par se cacher. Esther, ça veut dire se cacher. Okay. Et en particulier le fait que le nom de Dieu n'apparaît pas de façon dévoilée dans le livre d'Esther, c'est la fin de la révélation. Et pour bien indiquer que le livre d'Esther fait partie du canon biblique, diraient les exégètes, de la révélation, la législation de la halakha impose les mêmes règles pour l'écriture et la lecture du livre d'Esther que pour l'écriture et la lecture du livre de la Torah. Vous avez vu les Megillot sur parchemin. Bon. Je crois qu'on peut, c'est un sujet très vaste, mais on peut proposer deux explications de description au moins. La première, c'est la dispersion, purement et simplement. Les tribus d'Israël ont commencé déjà notablement à être dispersés, et en particulier 10 d'entre elles sont déjà, on ne sait plus. C'est-à-dire le véhicule de réception du fait de révélation est détraqué par la dispersion. Je vais donner une image que je donne à ce sujet habituellement. Dans ma jeunesse, il y a eu les premiers postes de TSF, comme on disait. Aujourd'hui, il y a des transistors, mais je crois que c'est à peu près la même chose, si un spécialiste nous dira. Imaginons un poste récepteur de l'émission de radio qui doit avoir 12 lampes pour que ça fonctionne. 10 d'entre elles sont détraquées. Alors l'émission est là, mais on n'entend plus. Parce que le poste est récepteur est détraqué. Je crois que ça marche aussi avec les transistors. Bon. J'ai compris le problème. C'est-à-dire 10 des 12 tribus d'Israël ne sont plus en mesure de participer à la maralechet, qu'on dirait la structure de réception. Alors, bien que l'émission soit toujours là, elle n'est entendue que faiblement, de loin, de très loin, à l'échelle individuelle, par les aides d'exception qui ont le roi à connaître. Mais la Nevoa, c'était le dévoilement objectif pour Israël en tant que post-récepteur intact. C'est compris le problème. Ça, c'est la première raison. La deuxième, qui est très corollaire, c'est que, est relié à notre sujet, c'est la fin de l'époque de l'existence de la nation d'Israël comme telle sur sa terre. Puisque, comme vous le savez, l'événement de prophétie est relié étroitement à la terre d'Israël, c'est là que ça se passe, ou concerne la terre d'Israël et pas autre chose. Par exemple, Abraham était au Kasdim. Alors Dieu se révèle à lui au Kasdim, mais pour lui dire quoi? Quitte au Kasdim et va à l'endroit qui s'appellera Jérusalem. Après, là-bas, je te parlerai. Remarquez, ça commence à comprendre. L'Ephrécha, va là-bas, et là-bas je te parlerai. De la même manière, la révélation en Moïse en Égypte. Le temps est arrivé, direction le Sion, et là-bas, vous verrez ce qui se passe. C'est clair. Et ça, c'est tout un chapitre de Judas Lévi qui discute toutes les objections éventuelles sur ce principe, la prophétie n'est possible que sur la terre d'Israël. En étudiant tous les cas où il y a eu quand même prophétie en dehors, il répond de façon très claire en analysant chaque exemple, ces prophéties qu'il y a eu en dehors ne concernaient que Eretz Israël. Ça va jusque là. Bien. Et alors je crois qu'il faut bien comprendre ce drame que le Rav nous analyse, c'est le fait que dans le temps des Juifs, n'est resté de façon dévoilée, visible, pour définir l'identité d'Israël, que la dimension spirituelle. la relation à la dimension de la collectivité nationale en tant que telle, elle était réelle, virtuelle, mystique. Et à partir de l'émancipation, elle est devenue mythique. Et puis subitement elle éclate, subitement elle est là. Et subitement elle est là en opposition avec l'autre définition. Voilà le problème qui est indiqué dans cette phrase. C'est clair jusqu'à là? Et elle n'arrive pas à comprendre, a ajouté le Rav, en fin de phrase, qu'elle n'est qu'une étape de restauration du véhicule de l'essentiel qui est la fonction de Yehuda, du Machia ben David. Vous avez compris le problème? Et tant que le véhicule contrarie la lumière qu'il devrait contenir, il y a encore obscurité. Il y a peut-être obscurité pire. Une minute, monsieur avait demandé avant, stop. Vous avez une question pour vous?
Non, je voulais, en référence à ce que vous disiez tout à l'heure, cette expression du doute qui étreint même les juifs, je crois qu'elle se justifie à ses propres yeux par un refus, une défiance de l'idolâtrie, c'est-à-dire des effets pernicieux, d'une fois trop crédule, trop aveugle. Il est bon de douter, se dit-on. Surtout quand on est juif, même quand on ne l'est pas, on se rend compte que les premiers rois d'Israël, justement, ont été idolâtres, n'est-ce pas? Donc,
attendez, là, il y a peut-être un mélange de deux sujets.
Il y a des crochements dont je suis très conscient, mais qui est précisément ce sur quoi on le choque toujours.
Je dirais que, dans le vocabulaire hébreu, le doute est un mérite que lorsqu'on doute de son mérite. Que lorsqu'on doute de son niveau de mérite. Mais douter de soi, pour Israël, c'est un autre problème. Si vous voulez, c'est au niveau des valeurs morales qu'il faudrait reprendre votre analyse. C'est-à-dire que, je voudrais reprendre quand même, pour que ce soit plus clair, l'analyse de la notion de perplexité opposée à celle de doute. Ne pas être perplexe lorsqu'on commence à découvrir le caractère énorme, gigantesque, en acquis, des perspectives de l'histoire d'Israël dès qu'elle est prise au sérieux en relation avec l'histoire universelle, c'est de l'orgueil. Vous comprenez? Idolâtrie, c'est autre chose. Vous pouvez parler, mais c'est une façon de parler, de l'idolâtrie de soi. Okay? Mais c'est ça l'orgueil, l'idolâtrie de soi. C'est au niveau des valeurs morales que ça se passe. Et alors que la perplexité est une vertu, le doute c'est le signe d'une maladie grave. Lorsque le doute porte sur sa propre identité. Est-ce que c'est bien clair ce que je dis là? Donc c'est vraiment une conduite intellectuelle, spirituelle, très différente. Reprenez les analyses de Descartes dès le début du discours de la méthode, ou des méditations métaphysiques. Il nous dit très clairement, étant déçu d'une connaissance antérieure, il la remet en question. Et c'est donc bien une expérience seconde. Okay? Mais il nous a dit tout de suite, de telle sorte de pouvoir trouver la première vérité évidente qui récupérera les autres, le critère. Et se référer, si vous voulez, au doute comme vertu, ça fait partie de toute cette inversion des valeurs du temps contemporain, où c'est la mort qui est la vie, où c'est le fait d'être tordu qui est droit, etc. Vous comprenez, qui est très, très gênant lorsque ça fait irruption dans la lecture de la Bible. Je vais vous donner un exemple. La Bible qui dit que Dieu existe, elle dit que cela, il faut la lire comme si c'était un livre écrit par un athée, par exemple. Vous comprenez, il y a là quelque chose de l'ordre de la décomposition intellectuelle, spirituelle.
Le texte de Spinoza sur les prophètes, est-ce qu'il se rapporte à cette...
À quel texte vous pensez? Dans l'éthique?
Oui. Dans le traité
de... Dans le traité théologico-politique. Oui. Le tractatus, quoi. Bon. Vous pensez à sa définition de...
Quand il dit les prophètes en analysant par la Bible, la manière dont c'est écrit, la manière dont Dieu s'adresse au prophète, et comment il est entendu.
Attendez, pour le moment, vous n'avez parlé qu'en introduction de ce que vous devez dire. Est-ce que vous pensez au fait, à la thèse de Spinoza, selon laquelle la prophétie des Hébreux passait par l'imagination, c'est à ça que vous pensez? Quel? Eh bien, peut-être nous allons en parler un petit peu. Ou bien d'un Nevi, madame. Formellement, c'est absolument exact. Ça veut dire, tant qu'on est capable que d'intelligence, et pour être prophète, il faut être premièrement capable d'intelligence. C'est évident. Okay? Hacham, rappelle-nous. Hacham, Gibor, Anav, Haché et Anav. Okay. Vous rappelez le séminaire de Michel Cohen. Et qu'on n'est pas capable d'imagination, alors on ne peut pas être prophète. C'est-à-dire que il faut pas, il s'agit pas du tout d'opposer l'imagination qui ne serait qu'imaginative à la raison qui ne serait que rationnelle. Il s'agit d'une capacité intellectuelle où, premièrement, on est haram, capable de connaissances absolues, lucides, précises. Mais si on n'est pas capable d'imagination, merci, alors on ne peut pas être prophète. On est sage, mais pas navi. Et c'est là l'erreur de Spinoza. Enfin, l'erreur de Spinoza. Spinoza était très intelligent, il ne faisait pas des erreurs, il savait ce qu'il faisait. Il lui fallait démontrer que la capacité prophétique à travers les évangiles était supérieure à la capacité prophétique à travers les prophètes de l'Ancien Testament, si vous avez lu le Tractatu jusqu'au bout. Okay, c'est un des livres les plus antisémites qu'un grand philosophe a pu écrire.
Extraordinaire.
Et surtout en milieu de persécution chrétienne anti-juive. Okay, puis avec une autre légende. C'est pas que j'aime pas Spinoza, je suis obligé de vous dire que je l'ai jamais lu parce que c'est interdit de lire Spinoza. Comment je vous en parle, j'en sais rien. Mais tu te rappelles de... Et alors, j'ai dû passer un examen dessus. Et alors, Attendez, que je me raccroche. Et l'autre légende de Spinoza, c'est de parler des perspectives universalistes, universelles de la pensée de Spinoza. Si vous saviez à quel point ça fait partie d'un humanisme ponctuellement très précis et très, mais tout ça, comment dire, très très particulier, qui était celui des Sauciniens. Vous savez quel est l'univers intellectuel des Sauciniens de Hollande, vous saurez quel est l'universel de Spinoza. Et qu'il était imbriqué dans des querelles de société entre la communauté juive et telle ou telle hérésie protestante qu'il préfère aux autres. Et comme c'était un très grand philosophe, une capacité philosophique colossale, on croit qu'il s'agit d'une pensée universaliste ou universelle. Pour être spinoziste, à la limite, il y en a un seul, c'est Spinoza lui-même. Qu'est-ce que vous dites ? Sur ce point, je parlais de l'autre légende, c'est-à-dire la pensée universelle. Et de la même manière, si vous voulez, qu'il y ait une légende beaucoup plus globale, c'est que la pensée grecque est universelle. Elle est premièrement grecque, et elle passe à travers la grammaire grecque. Et il y a là le cas privilégié d'une très belle langue, c'est vraiment ce que dit Talmud d'ailleurs, la beauté de Japheth, une très très belle langue, et qui a une telle force d'expression qu'on croit que c'est la pensée en général qui s'exprime à travers elle. C'est la pensée de la psyché grecque qui s'exprime à travers la grammaire grecque. Attendez, on passe trop chaud à la fois, je vais aller un peu lentement. Okay, je reviens un peu sur ce point qui me semble extrêmement important. Il y a un chapitre entier du Rav Kook sur ce problème, qui est dans Horot, c'est pas le livre là, mais le là-bas, peut-être que demain je vous le lirai. Hein? Demain, ça veut dire dimanche. Oui. Et le prochain cours, je vous l'ai dit. Rappelez-moi, c'est le chapitre intitulé « Hacham Adif Minabi ». Et c'est le fait que, mais je crois que nous en avons parlé au séminaire sur la prophétie. Donc c'est un texte à côté, ça fait partie du même sujet. C'est le fait que le prophète doit avoir une capacité d'imagination colossale pour arriver à faire identifier à celui à qui il parle dans ce monde-ci de quoi il parle.
Voilà, on fera la septième année shabbatique, l'année du jubilé. Kechol mitzvata amura batora, comme tout ce qui est prévu dans la Torah. Voilà le programme. Alors, je crois que si on se réfère à Maïmonide, on n'a pas le droit de couper ça en morceaux et de dire un morceau je prends pas. Est-ce que c'est clair pour vous ? Je crois que c'est la difficulté principale. Okay, étant donné que c'est, encore une fois, le texte principal de systématisation de ce programme, où il y a jonction, rencontre, entre l'attente de la messianité, Hamelech HaMashiach, et d'autre part, la réalisation qui commence à travers le mouvement sioniste, nous avons un programme énorme, donc deux difficultés, si j'ose dire. Premièrement, s'il s'agit d'un homme chef politique à l'envergure de nos générations, comment un seul homme pourrait faire tout ça, okay? Et puis, deuxièmement, la difficulté.